Bonjour à tous. Changement de ton à Washington. Donald Trump mettait systématiquement en avant le nucléaire. J.D. Vance place désormais les préoccupations économiques au premier plan dans la guerre avec l'Iran.
Jared Kushner la semaine prochaine en Israël pour discuter du plan en 15 points de désarmement du Hamas.
Ventre-corps pour l'industrie de la défense israélienne, l'Europe reste son premier client malgré des critiques systématiques sur les guerres menées par Israël.
Deux femmes israéliennes disparues en Autriche seraient encore en vie. Changement de ton à Washington sur la guerre contre l'Iran. Jusqu'ici, Donald Trump mettait systématiquement en avant la nécessité d'empêcher Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire. Son président, son vice-président, J.D. Vance, place désormais les préoccupations économiques au premier plan.
Interrogé jeudi hier donc par Fox News sur les objectifs de l'administration américaine, le vice-président J.D. Vance a été particulièrement explicite. Notre priorité absolue est de maintenir des prix bas pour le pétrole et le gaz pour les Américains dans tout le pays. Notre deuxième objectif est bien sûr d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Cette hiérarchie est loin d'être anodine. Depuis le début du conflit, Donald Trump avait présenté la menace nucléaire iranienne comme l'enjeu fondamental justifiant l'action militaire américaine. Les propos de son vice-président témoignent d'une évolution des priorités de Washington, alors que le conflit a profondément perturbé la circulation maritime mondiale par lequel transite une part essentielle du commerce de pétrole et de gaz. La question nucléaire arrive donc désormais en deuxième position, une divergence de fond problématique entre Jérusalem et Washington. Jared Kushner devrait se rendre en Israël la semaine prochaine pour rencontrer Benjamin Netanyahou.
L'émissaire américain du président Trump s'est donné pour mission de convaincre le chef du gouvernement israélien de soutenir le plan en 15 points du Conseil de la paix concernant un désarmement du Hamas. Jared Kushner sera accompagné de Nikolai Mladenov, le coordinateur en chef du Conseil de la paix. Les deux hommes entendent faire pression sur Israël dans le but de mettre fin aux opérations ciblées dans la bande de Gaza et qu'il respecte une série d'engagements humanitaires pris dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2025 avec le Hamas.
Et à l'occasion du 6e anniversaire des accords d'Abraham, Jared Kushner ambitionne d'autres accords de normalisation entre Israël et des pays musulmans.
Les accords d'Abraham ont démontré qu'une autre voie était possible. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de bâtir un mouvement de coopération encore plus vaste. Nous avons déjà surpris le monde. Je suis convaincu que nous pouvons y parvenir à nouveau, a déclaré le gendre du président Trump. Le Moyen-Orient se trouve une nouvelle fois à un tournant. Il existe aujourd'hui des opportunités de percée que beaucoup qualifieront d'impossibles, sans citer de pays ni annoncer de nouvelles initiatives précises. Il a rappelé les énormes bénéfices économiques des accords d'Abraham pour les pays signataires et laissé entrevoir de nouvelles avancées diplomatiques dans une région en plein remaniement stratégique.
Les bureaux du Premier ministre Benjamin Netanyahou démentent toute rupture dans les relations avec le président américain Donald Trump.
Contrairement aux affirmations, le Premier ministre israélien s'est entretenu avec le président Trump depuis son retour de Washington, ainsi qu'avec des représentants de l'administration Trump, ont indiqué les bureaux du Premier ministre à Jérusalem, tout en ajoutant qu'au cours de ces échanges, le chef du gouvernement israélien a défendu fermement les intérêts d'Israël, je cite, tout en se disant prêt à coopérer sur des mesures susceptibles de faire avancer les processus sans compromettre la sécurité du pays. Cette mise au point intervient alors que des divergences semblent s'accentuer entre Jérusalem et Washington sur la manière d'organiser l'après-guerre dans la bande de Gaza et sur le degré d'engagement d'Israël envers la feuille de route mise en place par le Conseil de la paix. Si nos conditions sont rejetées, la guerre deviendra offensive, menace un responsable iranien qui ajoute encore que le détroit d'Ormuz est contrôlé par Téhéran.
Mohammad Mokhber, conseiller du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, a menacé hier d'un changement de stratégie militaire si les conditions posées par Téhéran n'étaient pas acceptées. La stratégie claire consiste à transformer la guerre en guerre offensive et cela modifiera sans aucun doute les rapports de force dans le monde. Il ajoute que l'incapacité des États-Unis, je cite, à protéger leurs alliés dans le Golfe Persique a désormais été démontrée et répète une fois de plus que la République islamique contrôle le détroit d'Ormuz.
Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a annoncé que les États-Unis s'apprêtaient à imposer à l'Iran des mesures d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de l'isolement économique d'un pays, je cite.
C'est dans un entretien accordé à Newsmax qu'il a indiqué que de nouvelles annonces seraient faites la semaine prochaine, évoquant une combinaison de sanctions économiques sans précédent et la poursuite du blocus dans le détroit d'Ormuz, destiné selon lui à empêcher toute entrée ou sortie de marchandises des ports iraniens.
Les ventes records de l'industrie de la défense israélienne continuent. L'Europe reste son premier client, tout en ne se privant pas de critiquer vivement les guerres menées par l'État hébreu.
Une position schizophrénique qui va sans doute durer malgré les restrictions imposées aux exposants israéliens dans les salons de la défense comme Eurosatory. Les technologies israéliennes restent très recherchées en Europe, notamment dans la défense antimissile, les drones et la guerre électronique. Les exportations militaires israéliennes ont atteint un record de 19,2 milliards de dollars l'an dernier, soit 30% d'augmentation par rapport à l'année précédente et 36% de ces contrats sont conclus avec l'Europe. La belle Belgique ne fait pas exception, on le sait, elle a adopté une interdiction nationale d'importation de biens en provenance des implantations, mais elle utilise des missiles Spike développés par Rafael Industries et plusieurs entreprises israéliennes sont implantées dans le pays. En 2023-2024, la Flandre a encore délivré 17 licences pour l'exportation de matériel militaire vers Israël pour un total de 22 millions d'euros. Le paradoxe européen est clair. Condamner politiquement Israël tout en restant dépendant de son savoir-faire militaire. Du côté des industriels israéliens, on se prépare à produire au maximum. Elbit Systems a annoncé un carnet de commandes de 30 milliards de dollars, dont 71% proviennent de clients hors d'Israël, avec 1,5 milliard sur un pays européen non identifié. Israel Aerospace Industries enregistre des résultats records aussi à début 2026 et un carnet de commandes qui atteindra 35 milliards de dollars avec 65% des ventes réalisées à l'étranger. L'entreprise s'intéresse à des nouveaux marchés potentiels comme les pays du Golfe qui pourraient, après la guerre avec l'Iran, vouloir acquérir des systèmes israéliens d'interception, notamment Arrow ou des radars. Un nouvel essai du système Arrow est réalisé la semaine dernière. Selon les dirigeants d'Israël Aerospace Industries, dépasser les objectifs fixés. Fort de ces résultats, l'entreprise israélienne envisage une introduction en bourse.
Benjamin Netanyahou s'en est pris au Royaume-Uni à la radio de l'armée israélienne, Galet Tzahal, allant jusqu'à qualifier le pays de République islamique de Grande-Bretagne, je cite.
Il a évoqué Winston Churchill, son fils et son petit-fils, journaliste qui avait couvert la guerre des Six Jours d'une manière, selon lui, très favorable à Israël. Essayer de trouver cela aujourd'hui en Grande-Bretagne, qu'on pourrait appeler la République islamique de Grande-Bretagne, a-t-il lancé en riant. Interrogé sur l'antisémitisme qui touche l'ensemble de l'Europe, le Premier ministre a répondu que c'était pareil à ses yeux, notamment du point de vue des critiques des gouvernements européens à l'égard d'Israël ces dernières années. Il a poursuivi sur le même ton en affirmant la première République islamique nucléaire sera la République islamique de Grande-Bretagne, avant d'ajouter qu'Israël veillait à ce qu'il n'y en ait pas une autre en Iran. Les sentinelles de Tzahal alertent sur une reprise des activités terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.
J'ai l'impression d'être exactement au 6 octobre 2023. Quelle est la différence? Oui, nous avons gagné quelques mètres de terrain dans la bande de Gaza, mais les terroristes savent qu'on ne leur tirera pas dessus. Les Gazaouis ne sont pas des idiots. Finalement, ils nous testent constamment pour voir si on réagit ou non. C'est exactement comme avant le 7 octobre, affirme une sentinelle de Tzahal, interrogée par la 12e chaîne de télévision en Israël. Une autre soldate confie se sentir impuissante face à l'activité terroriste qu'elle observe de l'autre côté de la frontière. L'une de ses camarades déclare, elle, se sentir inutile. À quoi bon rester à surveiller 8 heures une frontière si les responsables de l'armée ne font rien des informations que je leur transmets, déclare-t-elle.
Le Liban dément à son tour s'être mis d'accord sur l'envoi de troupes étrangères au sud du pays du Cèdre.
Un haut responsable libanais a tenu lui aussi à démentir l'information de l'agence de presse Reuters selon laquelle Israël et son pays s'étaient mis d'accord sur l'envoi de troupes indonésiennes, italiennes, suisses et britanniques pour assurer la vérification du désarmement du Hezbollah au sud Liban. Israël a de son côté affirmé qu'aucun accord n'avait été trouvé sur la composition de l'organisme chargé de superviser et de contrôler le travail de la protection civile dans les zones pilotes. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties pour parvenir à un accord sur le mécanisme de vérification du désarmement de l'organisation terroriste chiite libanaise.
Mali Eli Elia Alomi, les deux femmes israéliennes disparues en Autriche cette semaine, seraient en vie.
Notre point de départ est qu'elles sont vivantes. Nous ignorons tout du mobile. Nous cherchons à déterminer si cet incident était prémédité, c'est-à-dire si la mère et la fille avaient prévu de fuir le pays ou s'il s'agit d'un acte criminel perpétré par un gang viennois, affirme un proche de l'enquête en Israël. Dans le même temps, la Banque Jérusalem a pris le soin de rassurer ses clients suite à des rumeurs de transferts de fonds importants qu'aurait opéré Lialia Alomi, employée de la banque. À la suite d'une enquête approfondie, nous tenons à préciser sans équivoque qu'aucun détournement de fonds des clients de la Banque de Jérusalem n'est suspecté. Les fonds de nos clients sont en sécurité et protégés et sont détenus et gérés conformément à la loi, affirme le communiqué.
La délégation de sauveteurs israéliens a décollé dans la nuit pour porter secours aux sinistrés du puissant séisme qui a frappé la Colombie alors qu'au départ, le pays n'en voulait pas.
La délégation voyage à bord d'un avion de l'armée de l'air israélienne. Elle est composée de 80 personnes, des soldats de Tsahal et de fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères et de la Défense aussi. Ce sont les offices du commandement du front intérieur de Tsahal et du ministère des Affaires étrangères qui dirigent toutes les opérations. L'unité de recherche et de sauvetage est commandée par le général de brigade de réserve Yossi Pinto, commandant de l'unité nationale de recherche et de sauvetage de Tsahal. La délégation distribuera de la nourriture et de l'eau aux victimes du séisme meurtrier de cette semaine et entreprendra des missions de recherche et de sauvetage.
La Chine financerait des manifestations pro-palestiniennes en Grande-Bretagne.
Une enquête du Congrès américain s'intéresse aux liens financiers présumés entre la Chine et Code Pink, un mouvement féministe d'extrême gauche très actif dans les manifestations pro-palestiniennes, notamment du côté de Londres. Selon le Télégraphe, environ 250 000 livres, soit près de 292 000 euros, auraient été versés à une société britannique liée à Code Pink par des entreprises proches de Neville Roy Singham, cet ancien mania américain de la technologie, aujourd'hui installé à Shanghai et soupçonné par des élus républicains de financer un vaste réseau diffusant les positions de Pékin à l'étranger. Au Royaume-Uni, Code Pink a participé à des mobilisations accusant Londres de complicité dans un génocide à Gaza. Le mouvement aurait également relayé l'idée que certains dirigeants britanniques auraient été achetés par le sionisme. Je cite, pour le président de la Commission américaine des voies et des moyens, Jason Smith, les financements liés à Singap soutiendraient des causes pro-Hamas et pro-communistes aux États-Unis comme en Europe. Un financement direct du gouvernement chinois à Code Pink n'a pas encore été publiquement démontré. C'est précisément ce que l'enquête cherche à établir. L'affaire alimente toutefois les inquiétudes sur la stratégie de Pékin, accusée d'exploiter les fractures politiques occidentales pour accentuer les tensions sociales. Une source parlementaire a indiqué au journal Telegraph, je cite, que la Chine finance des groupes pro-Hamas et de gauche au Royaume-Uni et aux États-Unis, a déclaré. Fin de citation.
L'ancien responsable et fondateur de l'unité anticriminalité 433, Yoav Zegalovitch, est sur le point d'intégrer les rangs du parti arabe israélien Ra'am.
Oui, selon certaines sources proches du parti dirigé par Mansour Abbas, les deux hommes seraient sur le point de sceller leur collaboration lors des prochaines élections. Des discussions ont eu lieu notamment hier, elles ont été positives selon le communiqué du parti Ra'am. Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté dans un esprit positif de la possibilité de voir Yoav Segalovitch intégrer les rangs de la liste Ra'am lors des prochaines élections à la Knesset. Les contacts vont se poursuivre, précise le communiqué. Mansour Abbas ambitionne de convaincre d'autres figures de l'appareil sécuritaire israélien et d'intégrer les rangs de son parti en vue donc du prochain scrutin du 27 octobre prochain. Et 30 ans après son arrestation, Marc Dutroux peut-il encore espérer sortir de prison? C'est la question qui taraude la Belgique et les familles des victimes.
Le 13 août 1996, le nom de Marc Dutroux fait la une des journaux. La Belgique découvre le visage de l'homme au cœur de l'une des affaires criminelles les plus marquantes de son histoire. Âgé de 39 ans, il est arrêté pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'enfants et d'adolescentes. Le 22 juin 2004, Marc Dutroux est condamné par la cour d'assises d'Arlon à la réclusion à perpétuité, assortie d'une peine minimale de 10 ans. La Belgique n'a pas oublié le traumatisme et une question continue de susciter l'inquiétude. Marc Dutroux pourrait-elle être libéré un jour? En droit, oui, il peut demander une libération conditionnelle comme tout condamné à la perpétuité. Mais pour être libéré, il devrait présenter un projet de réinsertion crédible et convaincre 5 juges à l'unanimité qu'il ne représente plus aucun danger. Or, une expertise psychiatrique concluait encore en 2021 un risque important de récidive. Dans son rapport, les experts décrivaient chez lui un fonctionnement de psychopathe sadique sadique sexuel et relevé une absence d'évolution et de remise en question. Dans les faits, donc, sa libération reste extrêmement improbable. On est revenu sur ce dossier important pour la Belgique à 7h30 avec Mickaël Dantine, professeur de criminologie.